VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 18 octobre 2016, en direct de Washington. Idrissa Seroudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, conclusion d'un accord hier au dialogue national sur le report de la présidentielle au mois d'avril 2018.
Les États-Unis ont transféré dans son pays le Mauritanien Mohamedou Ould Slahi. Il était détenu à la prison américaine de Guantanamo.
En Irak, les leaders kurdes signalent déjà des succès dans la bataille de Mossoul qui a commencé hier.
En Syrie, les armées russes et syriennes se préparent pour une trêve humanitaire de 8 heures à Alep jeudi.
L'ONU a annoncé un cessez-le-feu renouvelable de 72 heures sur l'ensemble du Yémen à partir de jeudi.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier la page sport, ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
En RDC, les participants au dialogue national boycotté par la majeure partie de l'opposition ont conclu hier un accord reportant l'élection présidentielle au mois d'avril 2018. Des détails avec Gaby Dorsil.
L'accord, validé en séance plénière hier à Kinshasa, prévoit de maintenir le président Joseph Kabila dans ses fonctions jusqu'à la tenue des élections. La présidentielle aura lieu le 29 avril 2018 et la passation de pouvoir entre le nouveau président et le président sortant est prévue le 9 mai, selon Vital Kamerhe, co-modérateur pour le compte de l'opposition. Edem Kodjo, le facilitateur, a annoncé que l'accord serait signé individuellement aujourd'hui par chacun des délégués à ses assises. L'accord prévoit la constitution rapide d'un nouveau gouvernement dont le poste de Premier ministre devrait revenir à une personnalité de l'opposition. M. Kamerhe, ancien directeur de campagne de M. Kabila en 2006 et chassé de la majorité en 2008, fait figure de favori. Réunis au sein du rassemblement, une grande partie de l'opposition derrière Étienne Tshisekedi a refusé de participer à ce forum, dénonçant une manœuvre de M. Kabila pour rester au pouvoir à la fin de son mandat le 19 décembre prochain.
A signaler aussi que selon l'agence Reuters, la Cour constitutionnelle de la RDC a annoncé hier qu'elle approuvait le report de l'élection présidentielle qui était théoriquement prévue pour novembre. Sa décision autorise le président Joseph Kabila, dont le second et dernier mandat expire donc le 19 décembre, à rester dans ses fonctions. La Cour avait été saisie par la commission électorale.
Toujours en RDC, des représentants de la procureure de la Cour pénale internationale sont depuis dimanche et jusqu'à jeudi en République démocratique du Congo pour réitérer son appel au calme et à la retenue. Des précisions avec Nanit Talani.
La délégation de la CPI rencontrera notamment des responsables de la RDC, des membres de partis politiques, la société civile et la presse. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, dans un communiqué, souligne que certains des actes commis lors des événements de septembre à Kinshasa pourraient constituer des crimes de la compétence de la Cour pénale internationale. Les violences de septembre ont fait au moins 50 morts selon l'ONU en RDC. Madame Bensouda appelle tous les acteurs congolais à s'assurer qu'eux-mêmes, leurs partisans, sympathisants et agents s'abstiennent en tout temps et en tout lieu de tout acte de violence criminelle contre les individus et les biens et à prendre les mesures nécessaires pour prévenir de tels actes. Le bureau de la procureure dit surveiller avec une extrême vigilance la situation sur le terrain et rappelle que la CPI prendra toutes les mesures qui s'imposent pour traduire en justice les personnes responsables de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité.
Au Nigeria, la faction de Boko Haram, qui a prêté allégeance au groupe État islamique, a affirmé hier avoir tué 20 soldats nigérians et nigériens dans l'État de Borno. Les précisions d'Eric Manirakiza.
Le groupe se présente sous le nom de la province ouest-africaine de l'Organisation de l'État islamique. Le chef de cette faction, Abou Mossab al-Barnawi, a affirmé hier que 20 soldats ont été tués, des dizaines blessés, au cours de violents affrontements la veille dans le village d'Asaka, dans le nord-est du pays. Un chef local a confirmé que des djihadistes à bord de 8 véhicules ont pris les soldats par surprise. Ils ont attaqué à l'armée lourde et aux lance-grenades, puis ont emporté 6 véhicules militaires et des armes. En août, le groupe État islamique avait désigné un nouveau chef pour l'Afrique de l'Ouest, Abou Mossab al-Barnawi, un proche de Mamane Nou, rival d'Aboubakar Shekau, qui dirige Boko Haram depuis plusieurs années. Jeudi dernier, la faction de Shekau a libéré 21 lycéennes de Chibok qui étaient en captivité depuis plus de 2 ans.
Les États-Unis ont transféré dans son pays le Mauritanien Mohamedou Oulslahi, qui était détenu à la prison américaine de Guantanamo. Anastasie Tudiech.
D'après un communiqué du Pentagone, Washington remercie le gouvernement de Nouakchott pour son geste humanitaire. Mohamedou Oulslahi, 45 ans, était détenu à Guantanamo sans procès depuis août 2002. Il avait été arrêté en 2001 en Mauritanie, puis a été successivement emprisonné en Jordanie, en Afghanistan, avant d'arriver à Guantanamo. Dans son livre intitulé « Carnet de Guantanamo », publié il y a près de 2 ans, il raconte comment il a été poussé à faire de faux aveux. Les États-Unis l'accusaient d'être un membre d'Al-Qaïda ayant participé à la cellule de Hambourg liée aux attentats du 11 septembre 2001. Le président Barack Obama s'était engagé à fermer le camp de Guantanamo lorsqu'il a pris ses fonctions en janvier 2009. Il y avait 242 prisonniers. Après ce dernier transfert vers Nouakchott, il reste 60 détenus dans cette prison américaine à Cuba.
Au Mali, réouverture des écoles à Kidal, fief de l'ex-rébellion, en présence du gouverneur nommé par l'État, une première depuis plus de 2 ans. L'État n'avait pas repris pied dans cette ville depuis des combats en 2014, lors d'une visite du premier ministre de l'époque, Moussa Mara, qui s'était soldée par une lourde défaite de l'armée face aux rebelles. Notre correspondant Kassim Traoré revient sur la cérémonie d'ouverture des classes à Kidal.
L'année dernière, il y a eu une tentative d'ouverture des classes qui a échoué à cause des divergences entre les groupes armés et l'État malien. Cette année, les deux parties ont travaillé de commun accord afin que la rentrée scolaire soit effective dans la région de Kidal. Avant cette rentrée des classes, le directeur de l'Académie de Kidal, 2 directeurs du centre d'animation pédagogique et 17 enseignants étaient sur place. Ils ont travaillé sur la rentrée scolaire pendant plus de 3 mois. C'est lundi 17 octobre 2016. La cérémonie d'ouverture des classes a été présidée par le gouverneur de la région de Kidal, Koina Ag Amadou. Pour lui, cette cérémonie marque l'entente et la paix retrouvée. La région de Kidal compte 62 établissements scolaires, mais seulement une vingtaine sera ouverte cette année scolaire. En plus de la ville de Kidal, les enfants de Tessalit et Anefif pourront aussi reprendre le chemin de l'école. Depuis les affrontements de mai 2014, c'est la première fois qu'une autorité malienne se rend à Kidal et que le drapeau malien soit accepté au cours d'une cérémonie officielle. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, les leaders kurdes signalent déjà des succès dans la grande offensive terrestre lancée hier par les forces irakiennes pour reprendre Mossoul au groupe État islamique. Le président kurde Massoud Barzani a déclaré lors d'une conférence de presse télévisée que 200 km² ont été libérés en une journée.
Mossoul sera libéré, a-t-il assuré, ajoutant que ses combattants feront de leur mieux pour éviter que cette ville ne devienne un autre Alep, une allusion à la ville meurtrie syrienne. L'opération militaire actuelle est la plus grande lancée en Irak depuis le départ des troupes de combat américaines il y a 5 ans, mais elle suscite des inquiétudes quant au sort de centaines de milliers de civils dans la région.
En Syrie, les armées russes et syriennes se préparent pour une trêve humanitaire de 8 heures à Alep, jeudi. Parlant aux journalistes hier à Moscou, le général Sergueï Routskoï a dit que ces deux armées suspendront leurs frappes aériennes et tous les autres tirs jeudi à Alep de 8 heures à 16 heures heure locale, et ce pour permettre aux civils de quitter la ville en toute liberté, évacuer les malades et les blessés et assurer le retrait des rebelles armés. Selon le général russe, 2 couloirs seront ouverts pour permettre aux gens de quitter la ville. Les États-Unis et certains États européens ont accusé Moscou et Damas de commettre des atrocités à Alep, mais les officiels russes le démentent.
L'ONU a annoncé lundi l'instauration d'un cessez-le-feu renouvelable de 72 heures sur l'ensemble du Yémen à partir de jeudi. L'espoir est de régler un conflit qui a fait près de 7000 morts en 18 mois et provoqué une grave crise humanitaire.
Et puis, les autorités équatoriennes ont coupé l'accès à Internet à Julian Assange, fondateur de Wikileaks, après la diffusion de documents confidentiels obtenus par piratage informatique au sujet d'Hillary Clinton, la candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine. C'est ce qu'a annoncé Wikileaks sur Twitter. Julian Assange vit à l'ambassade d'Équateur à Londres depuis juin 2012. Quito lui a accordé l'asile quand la justice britannique a autorisé son extradition en Suède, où il est soupçonné de violences sexuelles. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'agriculture mondiale, à la fois source et victime du réchauffement climatique, doit réaliser une transformation profonde pour relever le défi de nourrir l'humanité, estime la FAO dans un rapport présenté hier à Rome. Pour l'organisme onusien, les petits exploitants, qui représentent 475 millions de foyers dans les pays en développement, n'ont que très peu accès au marché, au crédit, aux informations pratiques et météorologiques. L'Union européenne va doubler son aide financière à la Tunisie en 2017 à 300 millions d'euros afin de soutenir les réformes en cours dans le pays, selon un accord du Conseil de l'Union européenne annoncé hier. Dans ce pays en proie à un chômage endémique sur fond de croissance atone, les avancées politiques ne pourront être inscrites dans la durée que si elles sont accompagnées par des avancées économiques de même envergure, estime le Conseil. Par ailleurs, il appelle le gouvernement de Tunis à procéder rapidement à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les investissements en vue d'améliorer l'environnement des affaires. Le Burkina Faso vient d'inaugurer sa première usine de lampes solaires avec l'ambition de transformer les rayons solaires en électricité, une énergie qui lui fait cruellement défaut. Le marché des lampes solaires est très porteur dans ce pays qui a le coût de kilowatt-heure le plus cher d'Afrique et où l'électricité est une denrée rare, accessible à seulement 19% des 19 millions d'habitants. Le développement des énergies renouvelables et surtout du solaire devrait sortir le pays de sa carence énergétique. L'usine La Gazelle compte produire chaque semaine 1500 lampes solaires et compte en sortir d'ici à 2020 1 million.
Et maintenant, la page sport avec Jean-Roger Bion. On commence avec du football féminin, avec le mondial féminin des moins de 17 ans qui se joue en Jordanie.
La finale opposera le Japon à la Corée du Nord. La Corée du Nord s'est qualifiée de manière convaincante pour la finale en disposant du Venezuela 3-0. Le Japon, l'autre finaliste, a défait sur le même score l'Espagne en demi-finale. Les Nord-Coréennes ont mis fin à l'aventure africaine de ce mondial féminin des moins de 17 ans en éliminant les Ghanéennes en quart de finale. 2-1.
En football européen, match de la Ligue des Champions ce mardi.
Le groupe E verra le choc entre CSKA Moscou et Monaco, leader du groupe avec 4 points, et la rencontre Bayer Leverkusen-Tottenham. Dans le groupe F, le Real Madrid reçoit Legia Varsovie avec la possibilité de se démarquer de Dortmund, avec qui il est à égalité de 4 points. Dortmund qui sera en déplacement au Portugal contre le Sporting. Dans le groupe G, Leicester, leader avec 6 points, reçoit FC Copenhague, tandis que Bruges joue contre le FC Porto. Le groupe H verra à l'œuvre Dynamo Zagreb contre Séville et Lyon contre la Juventus.
Nouvelle décision de la FIFA concernant les stades du Mondial 2018 en Russie.
Dans une mise à jour publiée lundi, la Fédération internationale dit que, dans le but d'assurer la plus haute qualité des aires de jeu, les stades prévus pour le Mondial 2018 ne seront pas utilisés pour autre chose que le football 2 mois avant le début de la compétition. Toute exception devra être préalablement approuvée, a souligné la FIFA. Cette décision s'explique à partir de l'expérience de surutilisation des aires de jeu avant le Mondial brésilien, mais aussi le mauvais état du stade Vélodrome en France durant l'Euro 2016.
Nouvelle sanction financière contre le tennisman Nick Kyrgios.
Le joueur australien écope d'une amende additionnelle de 25 000 $ pour son comportement à l'Open de Shanghai, précisément pour conduite contraire à l'intégrité du jeu. C'était lors de son match contre Misha Zverev. L'association de tennis professionnel lui avait déjà infligé une amende de 16 500 $ plus une suspension de 8 semaines jusqu'au 15 janvier. La suspension pourrait être réduite à 3 semaines si Nick Kyrgios consulte un psychologue du sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, fin ce mardi, des travaux du dialogue politique débuté à Kinshasa le 1er septembre dernier sous la facilitation du Togolais Edem Kodjo. L'accord politique qui doit sanctionner la fin des travaux a été adopté lundi en plénière par toutes les composantes. Cet accord prévoit entre autres la mise en place dans 21 jours, à compter de ce mardi, d'un nouveau gouvernement dirigé par une personnalité de l'opposition, ainsi que l'organisation couplée de la présidentielle, des législatives et des provinciales en avril 2018. Reportage sur ce dialogue, toujours boudé par une frange de l'opposition et de la société civile, avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après plusieurs jours de travail en comité restreint et l'annonce le week-end dernier d'un accord trouvé autour de l'accord politique devant sanctionner les travaux, les délégués de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile ont adopté lundi en plénière, sous la direction du facilitateur Edem Kodjo, le tant attendu accord politique pour une gestion consensuelle du pays jusqu'aux prochaines élections fixées en avril 2018. Avant la signature officielle de cet accord prévu ce mardi 18 octobre dans l'après-midi, Vital Kamerhe, chef de file et co-modérateur de l'opposition au dialogue, revient sur ce que sa composante a obtenu.
Pour nous, il fallait respecter strictement la Constitution. Le deuxième paragraphe du préambule dit que tout ce que nous faisons se fonde sur la Constitution de la République démocratique du Congo. Le troisième paragraphe du préambule dit que nous prenons tous l'engagement de respecter strictement la Constitution de la République démocratique du Congo pendant cette période intérimaire. Et quels sont les résultats que nous avons obtenus? C'est la date du 31 juillet comme date de la fin de l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national, la date du 30 octobre 2017 comme date de la convocation des trois scrutins combinés, la présidentielle, législative nationale et les provinciales, et six mois après, c'est-à-dire le 29 avril, c'est la tenue de ces trois élections combinées. Et conformément à la Constitution, dix jours après, c'est la passation du pouvoir.
Geneviève Inagossi, députée nationale et porte-parole adjointe de la composante majorité présidentielle, revient, elle, sur les points de divergence qui ont été aplanis avant d'aboutir à cet accord. Elle évoque également la possibilité pour le rassemblement de l'opposition qui n'a pas pris part aux travaux de le signer.
Tout le monde s'est accordé sur le fichier électoral, sur les séquences des élections, sur les calendriers électoraux et bien entendu sur la gestion consensuelle de la République après le 19 décembre. Les divergences qui ont été relevées ici ont été aplanies et que la voie est bien balisée pour signer l'accord. L'accord est ouvert pour être signé par toute partie, même celle qui n'a pas participé au dialogue. Du moment où le rassemblement se retrouve dans les dispositions qui ont été arrêtées et convenues ici au niveau du dialogue, il y a toujours de la place pour le rassemblement pour venir signer à tout moment. Mais pas pour remettre en cause l'accord tel qu'il a été convenu par les partis qui ont pris part au dialogue.
La clôture officielle des travaux du dialogue devrait donc intervenir ce mardi, alors qu'un peu plus tôt dans la journée de lundi, l'Union européenne rappelait aux acteurs congolais la nécessité de dialoguer et appelait à des élections en 2017. Selon Bruxelles, l'actuel dialogue doit ouvrir la voie à une nouvelle phase d'un processus politique plus inclusif au cours des semaines à venir. Il devrait être clarifié d'ici le 19 décembre la manière dont se déroulera la période transitoire jusqu'aux élections. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
En Éthiopie, le gouvernement a renforcé l'état d'urgence décrété le 9 octobre, imposant notamment de sévères restrictions sur les déplacements dans le pays et interdisant la consultation de certains médias d'opposition basés à l'étranger. Même les diplomates étrangers basés en Éthiopie ont interdiction de se déplacer au-delà d'un périmètre de 40 km autour de la capitale Addis Abeba, sauf autorisation spéciale. Pour une analyse, Claire Morin-Gibourg a joint un expert de la Corne de l'Afrique qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Le gouvernement est en train de perdre peu à peu le contrôle du pays. Donc ça se durcit, ça se replie, ça se concrétise, mais ils sont en face de quelque chose d'énorme. Et pas du tout d'ailleurs parce que c'est organisé, c'est-à-dire la possibilité de survie du gouvernement à l'heure actuelle, c'est justement parce que le mouvement tant Oromo que Amara n'est pas organisé. Mais le danger, c'est qu'également, c'est presque impossible de le décapiter parce qu'il n'a pas de tête. C'est pas une organisation, justement.
Est-ce qu'on peut craindre des mesures répressives ?
Bien sûr, on ne peut pas les craindre, on peut être sûr qu'elles auront lieu.
À moyen ou long terme, que pensez-vous qu'il va arriver ?
Le gouvernement pourrait bien passer l'arme à gauche. Ça va être très dur pour eux de survivre. C'est un gouvernement qui a une base ethnique étroite et qui représente à peu près 6% de la population. Et les gens qui se soulèvent contre lui représentent 60% de la population. Donc c'est pas difficile, hein. Il y aura un très gros problème pour le futur.
Est-ce que pour vous, au jour d'aujourd'hui, comme on peut le lire dans la presse, est-ce que le gouvernement éthiopien fait preuve de paranoïa ?
Oui, mais ils ont raison. Si je suis paranoïaque et que quelqu'un me tire un coup de revolver quand je sors de chez moi, je peux dire, regardez, avais-je raison ou pas ? Et effectivement, ils sont dans une situation extrêmement dangereuse. Alors là où la paranoïa n'est pas justifiée, c'est quand ils sont persuadés, enfin où ils font semblant d'être persuadés, que tout ça est dû aux Arabes. C'est un complot arabe, on dit les Égyptiens, les Émiratis, les Saoudiens, etc. Tous ces troubles ne sont pas dus à un complot des pays arabes.
Beaucoup de médias d'opposition basés à l'étranger, est-ce que vous pensez qu'ils jouent leur rôle ?
Il n'y a pas vraiment de presse éthiopienne sérieuse, ni pro ni anti-gouvernement. C'est une espèce d'encéphalogramme plat. Il n'y a pas de presse en Éthiopie, et à l'étranger non plus. Il y a des blogs, il y a des choses comme ça, mais ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas l'équivalent de ce qu'on peut avoir qui, par exemple, attaquerait le gouvernement à partir d'un point de vue organisationnel, etc. Ça n'existe pas.
Un expert de la Corne de l'Afrique qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité. Présidentielle américaine 2016, suite de notre carnet de campagne, les candidats Hillary Clinton et Donald Trump s'apprêtent à s'affronter demain dans leur ultime débat télévisé. En attendant, les scandales ne finissent pas d'éclabousser les deux rivaux. Le prétendant républicain continue à faire face aux accusations d'agression sexuelle, alors que, selon des documents parus hier, un haut responsable du département d'État a fait pression sur le FBI en 2015 pour abaisser la classification d'un message confidentiel d'Hillary Clinton. Et Jean-Roger Bion, on évoque un possible échange de bons procédés.
Eh bien, pour mieux comprendre l'affaire, le département d'État passait en revue à l'époque des dizaines de milliers de messages issus de la messagerie privée d'Hillary Clinton dans le but de les publier sur un site gouvernemental. Lors de ce processus, des messages ont été classés confidentiels ou secrets et donc expurgés. Une classification gênante car Hillary Clinton n'était pas censée échanger d'informations confidentielles sur un réseau privé. Le FBI a mené une enquête et avait conclu en juillet dernier que des poursuites pénales n'étaient pas justifiées, bien que le directeur James Comey ait épinglé l'ancienne secrétaire d'État pour négligence extrême. Dans des notes résumant ces investigations et publiées hier par la police fédérale, il est fait état de pression de Patrick Kennedy, l'un des sous-secrétaires d'État, concernant un email sensible relatif à des activités du FBI et classé secret. Monsieur Kennedy a demandé que ce message soit déclassifié ou reclassifié dans une catégorie moins sensible. Un agent du FBI a rapporté une proposition d'échange de bons procédés ayant réclamé à Monsieur Kennedy que le département d'État accepte la demande du FBI de déploiement d'agents supplémentaires dans des postes diplomatiques à l'étranger. In fine, le message en question n'a pas été déclassifié. Le FBI a déclaré hier que la demande de poste n'était pas liée aux discussions sur la classification du message. Bien qu'il n'y ait jamais eu de contrepartie, ces allégations ont été rapportées aux responsables appropriés pour être passées en revue, indique la police fédérale.
Bien sûr, Donald Trump a sauté sur l'occasion pour dénoncer une collision entre l'administration et la candidate démocrate.
Oui, et c'est Michael Flynn, un proche conseiller du candidat républicain, qui est parti à l'assaut. Pour ce général à la retraite, ces documents du FBI sont la preuve indéniable qu'Hillary Clinton est de connivence avec le FBI, le ministère de la Justice et le département d'État pour dissimuler des activités criminelles au plus haut niveau. Deux présidents de commissions parlementaires, Jason Chaffetz et Devin Nunes, ont réclamé le départ de Patrick Kennedy. Le directeur de campagne d'Hillary Clinton, Robbie Mook, a quant à lui relevé que les négociations sur le niveau de classification de messages avant leur publication étaient banales. Un sujet qui, sans l'ombre d'un doute, reviendra sur le tapis lors du troisième et dernier duel télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump demain soir à Las Vegas. Idem pour les accusations d'agression sexuelle qui rythment la campagne de Donald Trump depuis quelques semaines, alors que le candidat continuait hier à dénoncer de façon préventive, mais sans preuve, ce qu'il a appelle une élection truquée, en faisant allusion à de possibles fraudes. Truquée aussi, d'après lui, par les médias qui feraient l'impasse sur les affaires liées à sa rivale qui se trouvait en tête dans les sondages publiés hier.
Ali Venneburn est une jeune Américaine de 17 ans qui attire l'attention des passionnés du blues à travers les États-Unis. Cette étudiante de l'école secondaire de Kilgore propose du blues inspiré des racines de cette musique noire américaine, mais aussi du style du guitariste texan Stevie Ray Vaughan. Ali Venable vient de sortir un album. Nous allons le voir dans ce reportage que nous relate Jacques Aristide.
Ali Venable joue de la guitare avec une telle aisance et talent, une prestation qui normalement requiert des années de pratique. Mais rien qu'après quelques petites années de pratique, elle a fini par jouer comme une pro.
Je joue depuis l'âge de 11 ou 12 ans, donc depuis 4 ou 5 ans maintenant.
Elle a également écrit la plupart des chansons de son récent album, Glass Shoes.
J'essaie d'écrire ce qui se passe dans ma vie pour que d'autres personnes, d'autres adolescents puissent s'y identifier. Parce que nous passons tous par les mêmes choses, comme nos ennuis et nos luttes.
Quand elle joue, elle se perd dans sa musique.
Rien d'autre n'existe pour moi quand je suis sur scène. Vous ne faites que jouer et vous ne pensez à rien d'autre. J'aime jouer pour les gosses. Je leur laisse prendre ma guitare pour la jouer, juste pour qu'ils puissent vivre cette expérience en tant que gamin.
Certains musiciens vétérans de Houston ont décidé de parrainer la jeune artiste, dont le musicien et propriétaire de studio, Rock Romano, qui a produit l'album d'Ali.
Ensuite, je lui ai dit, il faut qu'on nomme le groupe 1771, parce qu'elle vient d'avoir 17 ans et moi, je viens d'avoir 71 ans. C'est simple, vous pouvez dire qu'elle aime ce qu'elle fait et rayonne sur scène. Elle est jeune et je ne peux pas attendre de la voir dans encore 2 ou 3 ans.
Ali Venable est en phase terminale au collège et profite pour l'heure de la plupart de ses week-ends pour se produire en concert. Elle part jouer dans des endroits aussi loin que la Floride, ce qui lui permet de continuer d'agrandir le nombre de ses fans un peu partout dans le pays.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.